Bienvenue dans Champ d'Action, le podcast des éditions Terre Vivante qui vous donne les clés pour rendre votre quotidien plus écolo. Champ d'Action, ce sont des discussions avec des femmes et des hommes engagés et passionnés qui vous donneront, on l'espère, envie d'élargir vos horizons. Dans cette saison 3, nous serons plusieurs à tendre le micro. Aujourd'hui, c'est moi, Cléa, autrice et coach en cuisine bio et végétarienne, qui vous invite à nous suivre. Allez, c'est parti! La plupart des citoyens comprennent les enjeux écologiques d'aujourd'hui, mais manquent des connaissances de base pour se les approprier, et donc pour agir. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Roland Albignac. Agronome et chercheur, il se consacre depuis plus de 50 ans à la défense de la biodiversité et à la protection de l'environnement. Son livre « La Terre et nous » vient tout juste de paraître aux éditions Terre Vivante. Dans ce livre, Roland Albignac dresse un bilan des connaissances humaines en matière d'écologie. Et surtout, il propose des pistes pour que chacun puisse se mobiliser au mieux, en toute connaissance de cause. Bonjour Roland.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Eh bien, au contraire, c'est un plaisir tout à fait partagé.
Alors j'aimerais tout d'abord que vous nous disiez deux mots sur votre parcours, que vous nous expliquiez peut-être aussi votre métier.
C'est un parcours assez compliqué, mais je vais faire simple. Je suis agronome d'origine, de l'agro. J'ai fait des formations particulières sur les paysages, la formation horticole. Et j'ai été séduit par tous les problèmes de rythme biologique de l'époque, le rôle de la lumière, des photopériodes, etc. Et puis ensuite, je suis allé dans un centre de recherche qui s'appelait l'ORSTOM, l'IRD actuellement. Et là, je me suis totalement orienté sur les problèmes plus environnementaux, puisque ma thèse a porté sur les carnivores et les lémuriens de Madagascar, où j'ai vécu 25 ans de ma carrière en trois périodes.
Et vous avez beaucoup voyagé?
Et j'ai énormément voyagé. Là, mon empreinte écologique avion, elle est catastrophique.
Alors, quel est l'objectif de ce livre, « La Terre et nous » ?
Alors, ce livre, c'est un peu pour refaire le point sur un sujet qui est extrêmement vaste, complexe, où nous manquons de modestie pour tenter d'expliquer des choses qui, souvent, nous ne les maîtrisons pas vraiment, en fait. Et ça me scandalise souvent, par exemple, quand j'ai vu ce qui a déclenché, en fait, ce livre, ça a été les événements du Brésil, la déforestation et les brûlis au Brésil. J'ai eu la chance de participer à Rio en tant qu'UNESCO, et à Rio, en 92, c'est pas de maintenant, en 92, on avait déjà les peuples locaux qui étaient venus à Rio. On a eu des discussions avec eux extrêmement intéressantes. Tous les problèmes de surexploitation forestière étaient déjà en place en 92. Parce qu'il faut savoir que pour le Brésil, c'est la transamazonienne, quelque chose qui a été financé par la communauté internationale, à savoir la Banque mondiale, qui a fait cette fameuse voie de transamazonienne. Ça a été l'ouverture au développement, comme nous l'avons connu, nous, dans le cadre du plan Marshall, après la guerre. Et donc, on est dans ce même système de toujours plus, des techniques élaborées et d'aller toujours en avant. Et ça, et de dire des bêtises, en fait. Et ça, donc, du coup, j'ai dit, allez, on fait ce livre et on va s'y consacrer. Le Covid m'a absolument aidé à faire des choses absolument que j'aurais jamais imaginé faire au départ.
Oui, ça vous a obligé à rester chez vous et à écrire plus
absolument.
Qu'à voyager, par exemple.
Absolument, parce que ça fait bien longtemps que j'ai envie de faire un livre de ce type. Et ben, j'ai jamais pu, parce que je suis un vagabond. Et j'ai mis toujours en avant les voyages. J'ai eu tellement de retours chaleureux de la part d'un groupe qui est énorme. J'ai dû faire quelque chose comme 150 voyages d'accompagnement sur toute la planète. Donc vous imaginez, et à chaque fois avec des échanges d'une intensité remarquable.
Donc votre livre est là pour nous aider vraiment à trouver les bons mots, à avoir les bonnes connaissances, les bons arguments aussi pour savoir de quoi on parle et puis pour agir ensuite. Un bon exemple de ça, dans le discours actuel, dans les médias et autres, on entend tantôt parler de dérèglement, de changement ou encore de réchauffement climatique. Laquelle de ces expressions vous paraît être la plus juste et pour quelles raisons ?
Alors, je vais tout de suite dire, c'est le réchauffement. Et pourquoi ? Parce qu'un dérèglement, vous savez, c'est comme un moteur à combustion. Ça se dérègle parce qu'il est mal alimenté. Hein, et il peut, à ce moment-là, exploser. Donc, et le climat n'en est pas là. Si vous voulez, c'est comme la girouette et le vent. Le climat s'adapte aux circonstances. Le CO2 augmente, eh bien, le climat change, c'est normal. Il ne va pas avoir les mêmes règles. Donc, il s'adapte à cette augmentation de CO2. S'il baisse, eh bien, il va s'adapter à la baisse du CO2. L'atmosphère a connu des variations absolument fantastiques du climat. Le niveau de la mer a changé sur des centaines de mètres dans une histoire relativement récente, même de l'histoire humaine, c'est-à-dire depuis 300 000 ans. L'homme existe depuis 300 000 ans. Et il a pu aller en Amérique, il a pu aller en Australie, grâce à des périodes de grand froid que nous n'avons jamais encore retrouvées.
Donc réchauffement climatique, on est d'accord.
Et donc le réchauffement est le mieux. Le dérèglement, oui, pour en revenir au sujet, on a donc dérèglement, on a le deuxième
changement,
qui est le changement. Alors le changement, c'est un terme très utilisé par les géologues, mais c'est un pas de temps de géologie. C'est-à-dire qu'un géologiste, lui, un million d'années, c'est rien du tout par rapport à la Terre qui a 4 milliards 600 millions d'années. Vous imaginez ? Donc, un million d'années, l'homme, vous voyez, ça fait... C'est pas vieux. Hein ? Les premiers homos, c'est 2 500 000 années. Les premiers hominiens, c'est très faible. Et l'homme, c'est 300 000 ans. Donc, pour un géologue, 300 000 ans, ça représente, si je faisais une comparaison sur un cadran de montre, hein, sur une heure, donc 60 minutes, vous savez combien représente l'homme là-dedans, l'arrivée de l'homme ? 3 secondes. 3 secondes sur 60 minutes. Donc, nous sommes les tout derniers arrivés et nous sommes les plus grands destructeurs. À cause de quoi ? De la main. Vous savez que l'homme a un cerveau, a plein d'organes tout particuliers, mais il a une main. Et cette main, c'est une main destructrice, parce qu'elle manipule, hein, la main nous permet de faire des outils, de concevoir. La main, c'est la transmission du cerveau vers la matérialisation des choses. On peut faire le meilleur et malheureusement le pire.
Oui, on l'a constaté. Alors, votre expérience, justement, et votre travail aussi de veille constante vous donnent une vision très réaliste, on peut déjà le constater. Votre souhait, c'est de redonner à la nature le droit d'exister, tout en procédant à un changement sociétal qui permettrait de réduire, pourquoi pas, les impacts du réchauffement climatique. Donc, si vous voulez bien, j'aimerais qu'on passe en revue quelques exemples et quelques pistes d'actions concrètes autour de problématiques qui sont d'actualité. Par exemple, on entend beaucoup dire qu'on peut planter des arbres pour compenser ses émissions carbone, pour sauver la forêt.
Tout à fait.
Est-ce qu'on peut vraiment planter des arbres pour sauver la forêt ?
Alors, je dirais que c'est le moins pire. Ce qu'il faudrait bien comprendre, c'est qu'il reste très peu, relativement peu, de forêts et même de systèmes, d'écosystèmes naturels en l'état. C'est-à-dire hors de l'atteinte de la fameuse main de l'homme. La main de l'homme est allée partout. L'homme est allé partout, il a détruit partout. Vous savez que les Australiens, en Australie en tout cas, les aborigènes ont introduit le chien. Le chien, le dingo, c'est un apport complètement extérieur à l'Australie. Ça a été une catastrophe écologique à l'époque, c'est-à-dire il y a 35 000 ans. Donc l'homme déjà à l'époque commençait à faire des dégâts. L'homme a été un cueilleur, chasseur et cueilleur. Eh bien, il pouvait pas être sédentaire. Il était erratique. C'est-à-dire qu'il épuisait les ressources d'un coin et il allait un petit peu plus loin pour rechercher en tournant, puisqu'il n'était pas en grand nombre, ça pouvait se concevoir. Mais dans l'état de la population actuelle, c'est une véritable catastrophe. Donc voilà, c'est clair.
Qu'est-ce qu'on peut faire alors, du coup, à part planter des arbres?
Alors, on peut planter des arbres parce qu'il en faut. On a besoin de bois. Je suis un partisan de deux choses. De la réalité, c'est-à-dire il faut être conscient qu'on a besoin d'un certain nombre de ressources. Vous voyez, même le livre a dépendu d'une ressource, le papier, qui dérive du bois, hein, qui est un sous-produit du bois. Eh bien, si vous voulez, à cause de ça, on a eu du retard. Donc, si vous voulez, on est un peu l'arroseur arrosé. Et il faut donc être conscient qu'il nous faut du bois. Donc, du bois, ça veut dire ce que j'appelle des forêts de boisement ou de reboisement. Artificielles, c'est des forêts anthropiques à 100%, mais il en faut pour avoir ces ressources. Et d'un autre côté, il faut totalement protéger ce qui est à peu près encore en état. C'est ça le grand drame, et je suis bien sûr, évidemment, pour une immixtion de l'écologie et une imposition de certaines actions de ce type à l'échelle internationale. On devrait avoir les moyens. Ça fait très longtemps qu'on défend une organisation plus puissante que celle du Programme des Nations Unies pour l'environnement, qui fait ce qu'il peut, mais qui n'a aucun pouvoir réel. Et il faut des pouvoirs extrêmement puissants. Il ne faut pas un ministère de l'environnement. Il faut un premier ministre ou un vice-premier ministre de l'environnement qui gère toutes les disciplines, et l'économique, et le social, et bien sûr l'environnemental. Donc c'est ce trépied du développement durable qui nous fait totalement défaut. Or, à Rio, en 92, on a signé, quand je dis « on », toutes les nations ont signé un accord. Et dans Rio, c'est le développement durable qui a fait foi. Tout le monde était d'accord. Développement durable, ça veut dire quoi? Ça veut dire équilibré sur le plan sociétal, équité, hein, viabilité, vivabilité. Ça, c'est des mots absolument utilisés entre ces trois pôle social, économique, environnemental. Tant qu'il n'y aura pas ça, et tant qu'il n'y aura pas une gouvernance pour gérer tout ça, on n'y arrivera pas. Donc il faut être, l'environnement, c'est l'arbitre de tout le développement futur de notre planète, et de l'homme, bien sûr, hein, qui est entraîné là-dedans.
Oui, on voit que c'est vraiment au niveau global qu'une action est nécessaire. C'est vrai que pris un par un, individu par individu, on se sent un peu désarmé, en fait.
Absolument. Là, il y a des visions globales. Vous savez, je suis pour ce que j'appelle classiquement l'effet zoom. Si vous êtes photographe, si vous faites un paysage avec un grand angle, c'est bien, mais vous n'avez pas le détail. Il faut que vous fassiez à la fois des visions d'ensemble et des vues très précises locales. Donc, il faut un zoom pour arriver à faire ça. Or, nous sommes actuellement, dans le domaine de la recherche en particulier, complètement avec des œillères, très spécialisés, et on n'a pas de gens capables de prendre ce recul et en permanence d'aller et de revenir, d'analyser le détail, de revenir au général et de repasser au détail. C'est des choses que j'avais écrites dans le projet que j'avais présenté à l'UNESCO en 92 pour l'UNESCO. Hein. Action locale, vision globale, c'est quelque chose qu'on le sait, on le connaît, et bien on ne l'applique pas. Ça, c'est dramatique. Ouais, y a de la conviction, hein. Je suis un peu remonté et ma famille a du mal à supporter tout ça. Hein. Je vous signale au passage parce que c'est un peu pénible effectivement de ressasser tout ça tous les jours.
Oui, je peux le comprendre. Ah, oui. C'est vrai que c'est le fait d'avoir fait cette synthèse de données qui vous a...
Qui m'a boosté complètement et je suis convaincu qu'il faut absolument qu'on enfonce le clou tant qu'on y est.
Oui, la lecture du livre, on le ressent.
Ben, et c'est vous vrai le ressentez
que,
ah, oui.
Ben, pour l'avoir lu, on a effectivement une compréhension différente des choses et une envie vraiment que les choses changent.
Mais oui, voilà. Bien sûr.
Le tout,
bien
c'est sûr. De savoir comment faire à notre niveau.
Sur une base de connaissances suffisante. Le gros problème, c'est que souvent, on reste très généraliste. On n'arrive pas à préciser. L'avantage de ce livre, c'est qu'il y a des précisions minimum, grand public. Hein. Vous savez, un enseignant, hein, j'ai été quand même enseignant, chercheur, agronome, mais aussi enseignant universitaire, et j'ai fait des cours. Mes étudiants disaient toujours, on va aux cours conférences d'Albignac. C'était pas des cours, c'était des cours-conférences. Parce que pour moi, c'est les idées qui comptent. Le reste, c'est écrit. Vous savez, René Dumont, hein, qui est un peu mon maître à penser depuis des lustres, dans les années 70, avait déjà tout écrit. Ce que j'écris, il n'y a rien de nouveau dans ce que j'écris. L'essentiel était déjà, en 70, déjà inscrit. Mais rien n'avance. Et en 70, avant Rio, il y a une autre conférence, en 72, qui s'appelait la Conférence pour la protection de la nature à Stockholm. Eh bien, en 72, Rio n'est qu'un Stockholm plus 20. Et le Rio plus 20, vous voyez où on en est. Donc, rien n'avance. Et ça, je ne sais plus quoi dire, tellement que ça me bloque.
Oui, alors en tout cas, on renverra les auditeurs au livre, effectivement, pour avoir le détail. Mais ici, on va essayer de donner quelques exemples, quelques arguments un petit peu utiles. Quelle piste est-ce que vous proposez dans votre livre, par exemple, pour protéger la biodiversité ?
Alors, pour protéger la biodiversité, donc je reviens au programme MAB, ce programme de réserve de la biosphère, il faut ce qu'on appelle un zonage. Alors ça, les anglo-saxons savent très bien faire ça, et je suis totalement anglo-saxon pour le zonage. C'est-à-dire des zones protégées, et il faut les protéger intégralement, et le plus possible, surtout qu'il n'en reste pas des masses, donc il faut absolument faire un effort. Et dans le reste, eh bien, on développe, tant pis. Il faut développer. On a besoin de ressources alimentaires, de bois, etc. Donc, il faut faire. Donc, le zonage est quelque chose d'important en essayant, entre les deux, de trouver des alternatives les moins contraignantes possibles et qui satisfassent ces besoins. Voilà. Donc, la nature sait très bien faire les choses. Il faut lui donner suffisamment d'espace pour qu'elles se pérennisent et qu'elles ne disparaissent pas. J'ai discuté très récemment avec des forestiers qui pensent qu'on peut partout mettre la main de l'homme tout en rendant les écosystèmes et la biodiversité en survie. Non, c'est pas possible. Il faut de temps en temps que ces mécanismes... Si vous changez une forêt, vous coupez même quelques arbres, eh bien derrière, vous aurez forcément une perturbation biologique. Et donc la biodiversité va en prendre un sérieux coup et ça ne réglera aucun problème. Voilà, un peu. Donc zonage et être très cohérent entre la protection d'une part, le développement de l'autre et des phases intermédiaires quand c'est possible pour maintenir un espace de protection suffisante. À mon avis, il faut au minimum un quart, à peu près 20%, entre 15 et 20% minimum de protection sur la planète. Et ça, c'est pas évident, surtout dans des zones comme l'Europe, des zones où depuis très longtemps, on a modifié le milieu. Il n'y a pas un milieu naturel en Europe, pratiquement. Il reste quelques forêts primaires en Pologne, Biélorussie, dont on parle beaucoup en ce moment, mais c'est là qu'il reste encore des forêts primaire au sens à peu près étymologiquement valable. Sinon, la biodiversité, c'est aussi les problèmes d'introduction. Dans la biodiversité, on a mélangé tellement les espèces, on a fait ce qu'on appelle des pollutions génétiques incroyables, et il y a déjà un non-retour difficile à contrer maintenant. Hein. On a trop mélangé les choses, et vous voyez, pour la Covid, ça a été la même chose. Il y a même 50 ans, on n'aurait pas eu ces problèmes, puisqu'il n'y a pas les communications qu'on a maintenant et qui perturbent toute la planète. Hein. Même les spationautes le voient bien, qu'il y a aussi des soucis de ce côté-là au niveau de la planète, en voyant la Terre de très loin. Hein. C'est l'effet zoom maximum que j'aurais bien aimé voir sous cet angle. Voilà.
Oui, il paraît que ça leur donne une conscience différente de la planète et une envie de la protéger.
Ah ben, j'imagine qu'on doit voir ce petit truc, se dire, mais dire qu'on est là-dessus et qu'on est en train... C'est vrai, ah, moi j'aurais adoré faire ce recul. C'est plus de mon âge, mais j'aurais bien voulu le faire. Voilà, donc la biodiversité, il faut l'aménager et vraiment mettre tous nos efforts là où on peut, c'est-à-dire bassin amazonien. Qu'est-ce qu'il nous reste comme forêt, comme biodiversité importante ? C'est les forêts tropicales, les forêts boréales, parce qu'on oublie souvent les forêts boréales, elles sont aussi importantes, sinon plus. C'est des milieux beaucoup moins diversifiés, mais ce sont des milieux extrêmement importants pour le fonctionnement de la planète. Vous savez une chose aussi sur la biodiversité, les forêts, ça transpire, hein, c'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Si on coupe une forêt, Vous savez combien on retire de pluviométrie potentielle? 75% de l'eau qui s'évapore au bassin amazonien, c'est de l'eau de l'évapotranspiration des végétaux. C'est-à-dire, vous coupez la forêt, vous coupez 75% de l'eau qui va tomber dans ces régions. On a vu récemment que cette évaporation par la condensation, ça fait des rivières aériennes de vapeur d'eau, hein, vous avez peut-être entendu parler, et suivant le sens de ces courants de l'atmosphère, eh bien, vous avez des conséquences qui peuvent aller très loin du lieu où c'était mis. C'est pour ça qu'il faut avoir cette vision mondiale et pas, y a pas de frontières pour ce genre de choses. Il faut un arbitrage mondial puissant et efficace.
Justement, on a vraiment l'impression qu'en tant que citoyen lambda, on peut appuyer sur aucun levier. Est-ce qu'il y a des associations, oui, des mouvements qu'on peut soutenir pour avoir l'impression
d'être bien sûr, utile ? Bien sûr, il faut déjà... Bon, il faut se mobiliser. Le gros problème, c'est d'être convaincu. J'essaye en fait de convaincre les gens. C'est-à-dire que on peut faire des petites choses, c'est toujours utile, ça ne gâte rien de le faire. Mais il faut avoir une idée des objectifs globaux à atteindre. Et c'est là qu'on peut être plus efficace. Par exemple, tous ces phénomènes de jeunes, comme Greta qui a mobilisé des jeunes, ses propos sont peut-être, je l'ai écrit dans le livre, ses propos sont peut-être excessifs, mais si elle mobilise tous ces jeunes, c'est très important de pouvoir les convaincre. Et moi, je suis prêt à essayer de les convaincre. Voilà un peu l'idée. Et pas au niveau de l'Hexagone uniquement, mais au niveau mondial. C'est une affaire de tous les hommes de la planète. C'est ça, le drame.
Oui, c'est compliqué.
C'est compliqué, très compliqué.
Alors, dans votre livre, il y a un chapitre assez intéressant sur nos besoins, sur l'idée de limiter nos besoins. Est-ce que limiter ses besoins, c'est revenir à l'âge de pierre, comme certains l'ont évoqué ?
C'est ce qu'on nous dit classiquement. Mais tu veux nous ramener à l'âge de la pierre. Donc, oui et non. Parce que vous savez, sur cette planète, il y a quand même, moi qui ai cette vision un peu mondialiste des choses, vous verrez dans le livre, il y a un exemple qui m'a choqué énormément. Vous avez des pédalos, il y a la photo de pédalos en Polynésie, hein, je ne dirai pas où et comment, mais en Polynésie, il y a des pédalos qui n'ont pas de pédales, simplement ils ont un petit moteur hors bord pour propulser des pédalos. Et puis à côté de ça, moi j'ai une charrette de zébu d'un gamin qui porte de l'eau, hein, dans le sud de Madagascar parce qu'il faut qu'il aille chercher l'eau assez loin du village. Donc, et ils sont ensemble. Et nous sommes tous des hommes. Nous sommes tous des hommes au sens large, hein, hommes et femmes. Hein, je ne parle pas que des hommes, c'est l'homme, l'homo sapiens. J'aime bien utiliser souvent le terme d'homo sapiens dans ce cas-là. Et il y a des homo sapiens qui ont un niveau de vie et qui n'ont même pas les besoins minimums de survie. Aujourd'hui, encore, alors que nous sommes dans l'opulence absolue. Là, il y a un nouveau partage des ressources à faire. Ça, c'est important. L'équité. La vivabilité, je reviens à ces pôles du développement durable. Et c'est là qu'il faut qu'on comprenne qu'il faut, nous, faire des efforts. Nous, pays occidentaux, nous avons profité énormément, et je fais partie de cette génération qui en a énormément profité, abusé, certainement. Je suis tout à fait d'accord que j'ai abusé. Eh bien, maintenant, il faut le payer. Et c'est aux générations qui suivent de le faire. Eh bien, on a un peu mauvaise conscience, vous voyez. Et c'est pour ça que j'aimerais bien pouvoir avertir pour ne pas subir, parce que trop souvent nous subissons, mais plutôt d'agir. Et il faut absolument ne plus subir, mais agir. Ça, c'est très important pour moi.
Et alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là ?
Alors, concrètement, eh bien, de la mobilisation, comme je vous disais, d'essayer de bien comprendre les mécanismes, et puis d'appliquer ce qui est écrit déjà. Tout est écrit. Le problème, c'est que tout est écrit depuis les années 70. Le Club de Rome, vous vous rappelez, la croissance zéro. J'étais à l'époque un adepte de la croissance zéro, hein, dans les années 70. Bon, ça, c'était fantastique, ces idées-là. Eh bien, rien n'avance. C'est pour ça que j'ai eu la chance de vivre dans toute cette période, d'en profiter et d'abuser. Mais vous savez, la première fois que je suis parti à Madagascar, je suis parti pour 3 ans. J'étais encore à l'époque sur Orly Sud, hein, on allait et je vivais très bien. J'ai fait des missions de brousse avec des grands, avec 60 porteurs, des choses incroyables. avec des risques énormes, je réalise, parce qu'on n'avait ni téléphone, ni rien, on n'avait pas de portable à l'époque, eh bien, on le faisait. Donc, ces besoins, ben, on peut s'en passer, puisque j'en suis passé pendant des dizaines d'années, et maintenant, on est là avec nos portables et tout. Bon, et du coup, on exagère. Ça, c'est le problème du système économique. Alors ça, j'explique assez bien dans le livre. Hein. Vous connaissez, j'imagine, tous un peu la pyramide de Maslow. Hein, cette notion de besoin, de reconnaissance, etc. Eh bien, je suis intimement convaincu qu'il faut revenir à ces fondamentaux. Il faut d'abord changer nos comportements et éviter tous les excès. Parce que d'un autre côté, je suis contre les excès. Hein. D'être végane, c'est très bien, mais l'homme est un omnivore. L'homme n'a pas un estomac fait pour digérer les celluloses. Si vous avez un bovidé, lui, il est adapté à digérer les celluloses parce qu'il est associé à des bactéries, il a un estomac complexe, etc. J'ai des lémuriens, j'ai travaillé sur des lémuriens, mangeurs de feuilles. Ils ont un cécum, vous savez, l'appendice, notre appendice qui est réduit à rien du tout. Eh bien, ces lémuriens ont un cécum deux fois plus volumineux, donc l'appendice deux fois plus volumineux que l'estomac. Parce que les feuilles séjournent avec des bactéries à l'intérieur, dans le système, des bactéries qui détruisent les celluloses et qui permettent ensuite de digérer ces celluloses. Voilà. Et nous n'avons pas ces mécanismes. On ne peut pas. C'est la démesure des choses qui me gêne beaucoup. Et vous savez, pas mettre les œufs dans le même panier, faire feu de tout bois, toutes ces expressions populaires qui ont du sens en fin de compte. Eh bien, revenons à ces fondamentaux. Vous voyez, c'est plus l'état d'esprit que la manière de faire. La manière de faire, on trouve, c'est écrit. Hein, on sait comment protéger, on sait comment produire du bois, mais il faut être d'accord sur ces stratégies. Parce que très souvent, on n'arrive pas à être d'accord. Quand je dis qu'il faut faire des forêts de production à tout va, je vais choquer certains écologistes plus politiques qui vont me dire « mais nous, non, c'est pas bon » ou « il ne faut pas manger de viande ». Moi, j'en mange. Par contre, j'avais un père végétarien, pas végétalien, végétarien, déjà à l'époque.
Justement, l'alimentation, vous en parlez dans votre livre.
Et l'alimentation, j'en parle, bien sûr.
Comment est-ce qu'on peut concilier notre alimentation, notre santé et la planète, en fait, la protection de la planète.
Alors, une alimentation, je vais faire une petite remarque. Ce chapitre, je l'ai rédigé essentiellement sur les acquis de Lilian Le Goff, qui a fait pas mal de choses avec Terre Vivante dans ce domaine de l'alimentation et qui a rédigé pratiquement les trois quarts, voire plus, de ce chapitre particulier, qui a eu la gentillesse de le faire, que je remercie bien sûr. Et si vous voulez, là aussi, il faut manger de tout. Il ne faut pas être excessif dans aucun domaine. Parce qu'on s'aperçoit que les matières grasses, finalement, ben, si on n'en mange pas, ben, on a d'autres soucis. Le beurre, oui, on peut en manger, mais si on en mange trop, ça ne va pas. Ou si on mange d'une raie au beurre noir, c'est quand même très embêtant. Mais il y a d'autres manières de consommer du beurre, en quantité raisonnable, etc. Je pense que le caractère omnivore de l'homme lui a permis de résister à toute une série d'événements qui l'ont pressé tout au long de sa vie. L'homme, maintenant, veut se mettre à l'écart de la sélection naturelle. Vous savez, je suis très néo-darwinien. Et la sélection naturelle, on s'en affranchit ou on croit s'en être affranchi. Vous avez vu la Covid ? Ça, on n'est pas affranchi du tout. On n'a pas de connaissances biologiques bien précises puisqu'on n'a pas la modestie de reconnaître qu'on ne sait pas tout ça. Donc, soyons modestes, soyons je dirais raisonnable. Hein. Soyons un peu, non pas retournons à l'âge de pierre, mais soyons un peu moins exigeants dans ses besoins. Essayons d'être un peu, d'avoir une intelligence collective. Ça, pour moi, c'est très important, cette intelligence collective qu'il faut qu'on développe. Et là aussi, c'est un des éléments qu'il faudrait infléchir dans le bon sens du terme, si vous voulez. Voilà.
Oui, parce qu'on est nombreux. En plus, il y a un chapitre dans votre livre qui adresse cette question-là. Est-ce qu'il faudrait limiter la croissance de la population mondiale ?
Ça, c'est certain qu'on est trop nombreux sur la planète. Vous avez vu, il y a une courbe de croissance de l'homme. Si vous la calquez sur la Covid, vous avez exactement le même profil de croissance démographique galopante. Le même. Ça interlope et ça interpelle. Vous savez, quand il y a pullulation, j'ai travaillé sur les populations, les pullulations animales. Eh bien, quand il y a pullulation, vous savez ce qui se passe derrière ? Il y a une chute brutale des effectifs. Et cette chute brutale, vous savez à quoi elle est due ? Tout bêtement, au stress. Et le stress crée l'agressivité, si vous voyez ce que je veux dire. Et l'agressivité, eh bien, provoque des mortalités extrêmement importantes. Il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Donc, là aussi, on ne peut pas imposer. C'est extrêmement compliqué. Mais il faudrait qu'on arrive à stopper, et ça c'est certain. Et je parle de Malthus, bien sûr, parce que Malthus, quand il a fait ses courbes de croissance démographique humaine, Malthus les a faites dans un cadre de biologie. Moi je parle en biologiste, je ne fais pas de morale. Hein. Je parle en biologiste parce que si on touche à la démographie humaine, on touche des aspects religieux, éthiques, etc., qui me dépassent. Mais la réalité biologique est qu'il faut stopper, minimum stopper.
Ça, c'est très clair.
J'ai pas...
Alors, non seulement on est nombreux, mais en plus, on produit beaucoup de déchets. Est-ce que là-dessus, il y a des pistes, là encore, pour limiter la pollution, valoriser les déchets, peut-être réemployer au lieu de recycler ?
Ça vient beaucoup, le réemploi, parce que, si vous voulez, ce qu'on oublie de faire, ça c'est en matière d'énergie, c'est la même chose, on oublie de faire des bilans énergétiques. Le problème, quand on recycle, je prends l'exemple toujours du verre. Hein. Vous savez que les bouteilles en verre et tout, on les fond, hein. Il faut remettre de la silice, hein. Il faut remettre quand même de la silice, parce que du verre tout seul, on ne refait pas du verre, hein. Il faut remettre de la silice. Eh bien, imaginez les calories qu'il faut pour fondre le verre, et pour refaire la même bouteille. C'est quand même plus astucieux de laver la bouteille. Vous savez, ça se faisait il y a 50 ans, les bouteilles étaient consignées, hein, et on allait à la pompe chercher le liquide dont on avait besoin. Donc, il faudrait revenir à des choses cohérentes, tout bêtes, et qui nous aideraient à avancer dans ce domaine. Voilà. Donc, ces déchets, hein, plus de plastique. Il y a 50 ans à Madagascar, vous savez, j'utilisais l'eau des marigots pour boire. Et je l'utilisais avec un filtre porcelaine qui faisait du goutte à goutte pour filtrer les bactéries, hein, qui étaient retenues par ces filtres et qui rendaient l'eau potable. Eh bien maintenant, on a partout, y compris en Afrique, des bouteilles d'eau minérales, etc., avec du plastique. Il y a 50 ans, il n'y en avait pas. Si, il y en avait. C'était les Américains qui, je me rappelle, mes collègues américains amenaient des bouteilles et nous, on rigolait parce qu'on dit, mais nous, on a les filtres, ça marche très bien. Eh bien, voilà. Donc, vous voyez un peu, donc ça touche les besoins, ça touche le raisonnement, cette fameuse intelligence collective. Il faut qu'on voit la planète. J'incite les gens à aller voyager parce que c'est très utile. Et c'est moralement très important, ça, en tout cas pour moi, ça a été capital, hein, dans mon équilibre, de voir un peu ce qui se passe ailleurs. Il faut vivre, voir ce qui se passe ailleurs, et ça, à mon avis, c'est la meilleure leçon de choses, la leçon pratique, pour justement être conscient des disparités qui existent sur notre planète, et un moyen de créer... non pas de l'égalité, mais de l'équité. J'insiste beaucoup. L'équité, c'est important. L'égalité, c'est moins... pour moi, c'est moins évident. Hein. Mais l'équité, il faut qu'on soit tous d'accord pour trouver ensemble les moyens de réagir et d'essayer de tenter de contrôler les choses. Voilà.
On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que, au-delà de ce que vous venez de dire qui est important, vous avez un mot de la fin, quelque chose à ajouter ?
Un mot de la fin. Ben, j'espère que je vous ai convaincu et que vous allez tous contribuer à faire avancer les choses. Ça serait peut-être une excellente chose de faire avancer, de réfléchir un peu plus et d'essayer de trouver une cohérence dans toutes ces démarches. Vous avez vu, on se chamaille tous les uns les autres. Il faut recréer du dialogue, recréer. Pour moi, les conférences citoyennes telles qu'elles ont été faites, c'est très important. Et je propose plusieurs conventions citoyennes de ce type, mais plus élargies. Même la convention citoyenne qui a eu lieu, elle était un peu trop restrictive. Et il faut bien sûr serrer les sujets. Mais donner d'abord une vision d'ensemble. Les citoyens, c'est pour avoir ces visions d'ensemble. Et moi, en fait, je voudrais aider à créer une convention citoyenne plus large. Et alors là, je suis prêt à m'engager à fond là-dessus.
Voilà, le message est passé.
Alors. Voilà.
En tout cas, on l'a compris, pour mieux agir, il convient vraiment de développer une vision critique des problèmes. Et votre livre, donc « La Terre et nous », nous donne tous les bons arguments en ce sens. Donc merci beaucoup pour cet échange.
Pourvu que ça dure, merci beaucoup.
Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Champ d'Action sur le site champdaction.org ainsi que sur les principales plateformes de podcast. Champ d'Action est le podcast de Terre Vivante, maison d'édition et centre écologique qui se lit autant qu'il se visite. Pour être tenu au courant de la diffusion des prochains épisodes, suivez-nous sur les réseaux sociaux avec les mots-clés Champ d'Action Podcast. À bientôt !